J'ose nous poser une question ce matin. Comment va notre foi? Non pas cet organe abdominal qui permet à notre corps de vivre à peu près correctement, mais cette foi donnée par Dieu qui nous permet de lui faire confiance et d'adhérer à tout le contenu de la foi révélé dans la parole de Dieu et reçue par l'attraction de l'Église. De cette foi qui est la preuve des réalités qu'on ne voit pas, la garantie des biens que l'on espère, comme le dit la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Parce que quelquefois, notre foi, elle peut être malmenée, en difficulté, face aux événements de la vie. Quelquefois, notre foi, nous essayons de la mesurer, de la quantifier, et cela nous désespère. Quelquefois, notre foi, nous avons besoin de la réveiller, de la raviver. Et c'est de tout cela dont il est question dans ces textes bibliques que nous venons d'entendre en ce dimanche. Oui, notre foi peut être malmenée par les épreuves et les difficultés de la vie. C'est ce qui arrive au prophète dans la première lecture, qui se met à crier vers Dieu. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier de toi violence sans que tu sauves? Combien de fois nous avons eu le sentiment que Dieu était sourd à nos appels, qu'il était aveugle face à notre vie, et combien de fois nous avons crié vers lui de manière quasi désespérée, comme le fait le prophète Habacuc face à ce qu'il vit, face aux réalités du peuple d'Israël, face à tout ce qu'il endure, le mal, la misère, le pillage, la violence, la dispute, la discorde. Nous avons le droit de crier vers Dieu lorsque nous avons le sentiment que tout va mal dans notre vie. Mais nous avons aussi le devoir d'entendre sa réponse et d'accepter d'être déplacé, d'être bousculé, d'être désorienté par sa réponse. Quelle est la réponse de Dieu au cri d'Habacuc? Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes. Quelle est-elle cette vision? Nous ne le savons pas ici, elle sera dévoilée plus tard au chapitre 3 du livre d'Habacuc. Dieu réalise sa promesse. Dieu va libérer le peuple d'Israël de toute cette violence à laquelle il est confronté. Dieu est le Dieu fidèle qui s'engage définitivement lorsqu'il fait alliance avec les hommes. Il nous faut sans cesse nous remettre devant cette vision de Dieu. Il nous faut aussi découvrir que nous avons nous-mêmes à vivre selon une vision qui nous est donnée par le Seigneur, par son Église, par les pasteurs de l'Église. Parce que une vision nous ouvre un avenir, une vision nous donne un horizon, une vision nous permet de mettre toute notre énergie pour tendre vers celle-ci, même si elle nous paraît irréalisable, même si elle met du temps à venir, même si elle est difficile et douloureuse. La vision de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle. Et nous avons à mettre toutes nos énergies pour que le Seigneur puisse réaliser dès ici-bas dans notre existence cette vision. Et si nous sommes habités par la vision que Dieu nous donne, alors, malgré les difficultés, malgré les épreuves, nous resterons fidèles à ce que Dieu nous propose de vivre. Le juste vivra par sa fidélité, nous dit le prophète. Oui, face aux épreuves de la vie, remettons-nous en présence de cette alliance que Dieu vit avec nous et gardons cette fidélité malgré ce que nous traversons. Si notre foi peut être malmenée par les épreuves, les difficultés de la vie, voici aussi que de temps en temps nous essayons de la mesurer, de la quantifier, et nous la trouvons bien pauvre, bien faible, bien petite. Alors nous crions vers Dieu, comme le font les disciples vers Jésus dans l'Évangile, augmente en nous la foi. Peut-être que les disciples sont saisis par la foi du Christ lui-même, qui s'en remet à son Père, qui lui permet d'accomplir les miracles qu'il réalise, de faire les guérisons qu'il fait, d'enseigner avec autorité. Peut-être sont-ils aussi saisis par la foi de ces hommes et de ces femmes qui viennent au Christ et qui osent lui demander l'impossible. Et cet impossible est réalisé dans leur vie au nom de leur foi. Va ta foi t'a sauvé, dit Jésus, à quasiment tous ceux qui viennent le voir pour obtenir quelque chose de lui. Et du coup, impressionné par cette foi, il regarde la leur. Il la trouve bien faible, bien petite, bien pauvre. Et face à leur demande, la Jésus raconte une histoire, leur donne une parabole, avec cette conclusion que nous pouvons garder pour nous. Soyez comme de simples serviteurs. C'est un remède, quelquefois, contre plusieurs tentations qui peuvent nous guetter. C'est quelquefois de l'orgueil. Comme ma foi est belle, comme ma foi est grande, comme c'est beau ce que je vis, comme c'est impressionnant les œuvres que je réalise autour de moi. Et nous oublions alors que tout cela nous est donné gratuitement par Dieu. Soyons de simples serviteurs, de serviteurs inutiles, parce que nous recevons tout de Dieu. Quelquefois aussi, nous espérons comme un retour sur investissement. Regarde, Seigneur, toute l'énergie que je mets, tous les moyens que je déploie pour grandir dans la foi. Et je suis bien peu payé en retour. Alors, s'il te plaît, donne-moi un peu plus. Nous avons à sortir de cette logique de mérite et de récompense pour entrer dans la gratuité que Dieu désire vivre avec nous. Et puis enfin, quelquefois nous voulons faire reposer tout le succès de la mission sur notre propre épaule, comme si c'était nous qui étions responsables de tout cela. Le seul responsable, c'est Dieu. Nous n'avons qu'à être de simples serviteurs. Ne mesurons pas notre foi, ne soyons pas effrayés par son impuissance, car le seul qui est puissant, c'est Dieu lui-même. C'est un encouragement à avancer et à grandir dans la foi et à demander au Seigneur qu'il vienne la raviver. C'est ce que Paul rappelle à Timothée dans la deuxième lecture. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Comme elle est belle, cette relation, cette amitié, cette charité qu'il y a entre Paul et Timothée. Paul parle de lui comme de cet enfant qu'il a enfanté par la foi, comme ce fils bien-aimé. Il va même s'adresser à lui en disant « Homme de Dieu ». Mais en même temps qu'elle est merveilleuse, cette relation, Paul rappelle à Timothée l'essentiel. Tu as reçu le don de l'Esprit-Saint par l'imposition des mains. N'oublie pas ce que tu as reçu. Réveille-le. Laisse l'Esprit Saint agir en toi. Nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains, au moins le jour de notre baptême, peut-être le jour de notre confirmation. Et nous avons à laisser l'Esprit Saint travailler en nous, agir en nous. Cet Esprit Saint qui nous fait passer de l'esclavage de la peur à la liberté de fils, de fille, bien-aimé du Père. Cet Esprit Saint qui balaye toute honte en nous. N'ayons pas peur d'être disciples du Christ. N'ayons pas peur du Seigneur et osons vivre notre foi et l'affirmer paisiblement. D'ailleurs, c'est quelques mots d'encouragement de Paul à Timothée que nous pouvons prendre pour nous-mêmes, liés enfin toute la question de la transmission de la foi. De la même manière que Paul a reçu la foi sur le chemin de Damas et par l'enseignement de la toute première communauté chrétienne, il la transmet à d'autres. Nous aussi, nous avons reçu la foi et nous sommes invités à la transmettre. Et au fond, la question que nous pourrions nous poser aussi ce matin, c'est qui est Paul pour moi ? De qui suis-je le Timothée ? Ou qui sont les Timothées pour moi ? De qui suis-je le Paul ? Nous sommes invités nous aussi à rentrer dans cette longue tradition de la transmission de la foi. Nous l'avons reçue comme un écho merveilleux et beau à nous de le transmettre à notre tour. Oui, examinons notre foi telle qu'elle est, telle que nous l'avons reçue, comme un don gratuit de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint la fidélité dans les épreuves. Demandons lui qu'il nous aide à rester de simples serviteurs inutiles en nous appuyant sur la puissance de Dieu. Demandons lui qu'il nous aide à garder la foi